La lecture que je vous propose pour introduire notre leçon de ce matin se trouve dans la première épître de Jean. Je vais lire en fait deux passages, dans le chapitre 2, les versets 18 à 27, et puis au chapitre 4, les versets 4 à 5, 6. Je n'aurai pas besoin de faire autant de remarques que j'en ai faites en accompagnement des lectures de ces derniers jours. Le style de Jean est un style très simple que nos traductions courantes reflètent de manière très directe. Donc, je traduis encore comme je l'ai fait les fois dernières, mais en fait, je reste très près des traductions auxquelles vous êtes habitués. Donc, premier épître de Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et selon que vous avez entendu, qu'Antichrist vient. Maintenant, aussi, de nombreux antichrists sont là, sont advenus. C'est une forme parfaite de ce verbe que nous avons déjà évoqué, qu'on peut traduire advenir. De là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis d'entre nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Même expression, hein, d'entre nous. Car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. Mais afin que soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. La phrase semble ne pas s'achever tout à fait, mais le sens est clair. Sous-entendu, ils sont sortis. Ils n'ont pas persévéré. Et vous, vous avez une onction provenant de, à partir de, du saint, de celui qui est saint, mais c'est simplement l'adjectif qui est employé nominalement. Le point intéressant, le seul qui mérite, je pense, un vrai commentaire dans ce passage, c'est que le mot onction et chrisma, qui bien sûr est en rapport avec antichristos, l'antichrist, c'est l'anti-ouin. Tout le passage évoque le combat entre une onction et l'anti-onction. L'onction pseudo, qui s'oppose à la première et en même temps constitue une imitation, un substitut. Il y a les anti-Christoï et puis il y a les Christoï, les oints, dans le Christ Jésus, qui ont reçu un chrisma de la part de celui qui est saint. Et tous, vous savez, pas d'objet ici au verbe, mais vous avez la connaissance, mais littéralement c'est tous, vous savez. Je ne vous écris pas parce que vous ne savez pas la vérité, mais parce que vous la savez et qu'aucun mensonge n'est de la vérité. Qui est le menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-ci, celui qui nie, est l'antichrist, celui qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils a aussi le Père. Vous, ce que vous avez entendu depuis le commencement, que cela demeure en vous. Pour le commencement, là, je vous signale, donc c'est un problème d'exégèse dans la première épître de Jean. Quel est ce commencement? Le commencement de la vie chrétienne, de ces personnes, le commencement de l'Évangile, Nouveau Testament, un commencement même antérieur, plus radical, c'est le même mot qu'au début de l'Évangile de Jean, au commencement était le Logos. Là, on peut en débattre, il y a peut-être un jeu sur cette notion, mais elle ne doit pas nous arrêter maintenant. Donc, ce que vous avez entendu depuis le commencement, que cela demeure en vous. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous demeurerez-vous dans le Fils et dans le Père. Et celle-ci est la promesse qu'il vous a faite, la vie éternelle. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent, qui vous entraînent dans l'erreur. C'est le verbe à partir duquel le mot d'erreur que nous allons rencontrer tout à l'heure est aussi formé. Et vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin que qui que ce soit vous enseigne, mais selon que son onction vous enseigne au sujet de tout, et elle est véridique et elle n'est pas menteuse, selon qu'elle vous a enseigné, demeurez en elle ou en lui. Voilà le passage, très littéralement traduit. Et puis, au chapitre 4, après quelques versets qui reprennent les mêmes thèmes manifestement, avertissant contre les faux prophètes et les négateurs de Jésus-Christ venu dans la chair, au verset 4, donc en Jean 4, 4, « Vous, vous êtes de Dieu, petits enfants, et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent du monde, à partir du monde. Et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui ne connaît pas Dieu ne nous écoute pas. À partir de là, on voit. Par ceci, nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous allons prier ensemble et ensuite nous interroger sur ce sujet de l'erreur. Est-ce que M. Merlin voudrait nous conduire dans la prière ? Je récapitule ce que nous avons fait ensemble, malheureusement toujours avec la frustration de devoir abréger. Nous avons constaté que l'affirmation « l'Écriture est exempte d'erreur » ou « inhérente » a été la confession de l'Église à travers les siècles, depuis le temps des Pères. Ce n'est, je n'ai pas pu en parler en détail, qu'au temps de la deuxième modernité, qu'à partir du XVIIIe siècle, qu'une fraction notable de la chrétienté s'est détachée de cette affirmation. L'Écriture exempte d'erreur. Aujourd'hui, elle n'est plus posée que par une minorité. Elle est caractéristique de ceux qu'on appelle les évangéliques, et sans doute d'une aile, mais très minoritaire, d'une aile fort conservatrice dans le catholicisme. Nous avons ensuite cherché à considérer les appuis de cette affirmation. Je rappelle, certaines questions qui me sont venues après me montrent que j'aurais peut-être dû faire ce rappel antérieurement, que notre travail est un travail dogmatique et non pas apologétique, au sens propre du terme. C'est-à-dire que je traite le sujet avec le présupposé d'une adhésion à la foi chrétienne chez tous ceux qui s'en occupent. C'est ce qui caractérise le travail dogmatique. Une affirmation fondamentale de rapport à la personne de Jésus-Christ et à la tradition chrétienne globalement, de telle sorte que je ne me suis pas enquis de la manière de justifier les affirmations à l'égard de non-croyants, à l'égard de personnes qui adhéreraient à d'autres religions ou qui feraient profession de scepticisme. Je n'ai pas cherché à traiter le problème selon cette dimension apologétique. Mais c'est un travail de dogmatique auquel je vous ai invité, dans lequel j'essaie de vous servir. Nous avons vu quels sont les arguments des théologiens de profession chrétienne, et même parfois qui revendiquent encore le terme d'évangélique, contre la doctrine de l'inhérence scripturaire, Et j'ai indiqué quelques grands schémas de réponse à ce propos, soulignant essentiellement deux choses hier. La première, c'est que contrairement à l'allégation qui est souvent avancée, la Bible déclare elle-même son inhérence de façon explicite et implicite, mais nécessairement perçue par celui qui la lit, avec l'oreille éveillée qui convient. L'Écriture affirme qu'elle est exempte d'erreur. Alors elle l'affirme, bien sûr, à propos de textes chaque fois particuliers, et pour que cette affirmation vaille de toute la Bible, il faut avoir le droit d'étendre ce qui est dit d'une partie à toute la Bible. Mais cela, j'en ai parlé aussi, peut être fait, cette généralisation, sur la base d'affirmations bibliques qui nous montrent qu'il y a une unité entre toutes les parties et que ce qui est la caractéristique formelle d'une partie peut être étendu à tout le reste, doit être étendu à tout le reste. Pour ceux qui donc appartiennent à la tradition chrétienne, qui font profession de s'y rattacher, cet enseignement global de la Bible a autorité. Il n'y a pas présupposé de son inhérence pour que cet enseignement, qui est un enseignement global, puisse être reconnu. Et on va donc à l'inhérence à partir d'une confiance globale qui est caractéristique de la profession chrétienne en général. D'autre part, j'ai affirmé que l'affirmation de l'inhérence procède de ce que la Bible possède comme statut et nature, d'après, là encore, son propre enseignement, lorsque cet enseignement est perçu dans toute sa précision. Les notions d'inspiration, l'équivalence écriture-parole de Dieu, ne suffiraient pas à la conclusion que la Bible est inhérente si on les prenait de manière vague, comme il est possible de les prendre quand on n'a pas étudié les choses avec précision. Mais si on voit quel est le sens biblique de l'inspiration, que signifie qu'elle soit, qu'elle est, théopneustos, selon le mot de 2 Timothée 3,16, quand on voit de quelle façon elle est conçue, parole de Dieu, comment jouent ses caractéristiques dans l'enseignement de Jésus et des apôtres, par exemple, alors on doit conclure que cela entraîne l'inhérence. Donc, d'une part, c'est une chose que la Bible affirme directement, en particulier à l'aide de métaphores très significatives, comme celle de l'absence de toute scorie. Et d'autre part, c'est la conséquence immédiate et nécessaire du sens qu'elle donne à des expressions comme inspiration ou parole de Dieu. Voilà le cheminement que j'ai essayé de faire jusqu'à ce point. Donc, il y a une question qui surgit.
Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Vous avez dit qu'on partait de quelque chose de global, sans présupposer d'abord l'inhérence, et que c'est après qu'on y arrivait.
Oui.
Mais si on part de quelque chose de global et qu'on trouve des textes qui ensuite affirment bien clairement l'inhérence, est-ce que la base qu'on a, c'est globalement vrai, suffit à donner autorité au texte? Ou alors est-ce quelqu'un pourra dire, oui, l'enseignement de la Bible globalement est vrai, mais quand elle parle de l'inhérence, les auteurs bibliques ont exagéré. À partir du moment où on ne part pas de l'inhérence, on admet la possibilité d'erreur. Et si on présente un texte qui affirme l'inhérence, on pourrait dire, mais justement, c'est là qu'il y a quelques erreurs.
Ma réponse serait double, si j'ai bien compris la question, puis j'espère que tout le monde a bien saisi aussi ce qui est en jeu. Ma réponse serait double. La première réponse serait qu'il ne s'agit pas de partir avec l'idée qu'il y ait des erreurs, mais plutôt avec cette question comme en suspens. Celui qui fait une confiance globale dans l'écriture, et ce n'est même pas la première étape dans un ordre schématique de logique, ça varie énormément dans la biographie personnelle des uns et des autres, mais dans l'ordre des principes en cause, je ne pense pas que ce soit même le premier point, le premier stade. Le premier stade, c'est la rencontre de Jésus-Christ, et c'est la confiance qui est faite à Jésus-Christ, reçu, reconnu comme Seigneur et Sauveur. C'est cette rencontre de Jésus-Christ que je fais par le moyen de la Bible, souvent avec le texte de la Bible en main, mais pas toujours. C'est peut-être l'écho qu'en donne le témoignage de l'individu, la prédication de l'Église, simplement. C'est la Bible qui sert de médiation, mais elle n'est pas forcément présente d'une manière que la personne perçoit tout de suite. Mais une fois que Jésus-Christ est rencontré, il donne autorité à l'ensemble des Écritures par lequel il est connaissable historiquement. Donc l'autorité, c'est-à-dire le crédit, vient à la Bible à partir de la rencontre de Jésus-Christ. Garde un caractère global. La personne ne sait pas encore jusqu'où ça va, quelle est cette autorité, enfin, jusqu'au moindre détail ou non, elle ne sait pas. Elle ne pense pas qu'il y a des erreurs dans ce détail. Elle ne sait pas du tout, elle ne pose en quelque sorte même pas la question à ce stade. Elle n'affirme ni l'errance ni l'inérrance et ne s'enquiert pas de ses possibilités. Elle scrute dans un mouvement de confiance globale à l'égard de l'Écriture ce que l'Écriture dit d'elle-même. Et elle découvre alors les enseignements que j'ai évoqués, que j'ai essayé surtout de couvrir dans une partie de la leçon d'hier. Ça, c'est le premier élément de ma réponse. Donc, il n'y a pas la pensée, oui, mais cette affirmation est peut-être erronée. Le deuxième élément de ma réponse, c'est que s'il s'agissait simplement, dans cet enseignement de la Bible, qui implique son inhérence, de quelques textes par-ci par-là, isolément, on pourrait effectivement, dans une démarche réflexive, dire oh « oui, mais alors, c'est peut-être juste les textes qui sont justement derrière, une fois qu'on se met à poser la question. » Mais ce n'est pas le cas. C'est un enseignement qui est très étendu, qui est global, et qui ne concerne pas un nombre limité de passages. Bien sûr, ceux qu'on cite, ce sont ceux qui sont les plus significatifs, les plus éloquents, qui vont le plus loin. Alors, on cite tel ou tel passage. Mais c'est un enseignement qui fait partie du tissu de l'enseignement fondamental sur ces questions. La manière dont Jésus se réfère à l'Écriture, se présente comme celui qui accomplit les Écritures, les cite, les apôtres s'appuient sur elle pour montrer que Jésus est le Christ, mais ça remplit le Nouveau Testament. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on pourrait traiter comme une affirmation marginale qui alors pourrait être mise en doute sans que la confiance globale soit mise en doute. Une fois qu'on a discerné cet enseignement qui implique l'inhérence, on se rend compte qu'on ne peut pas continuer à faire confiance globale sans aussi le reconnaître. Voilà l'argument que je tente de développer. Voilà donc pour le chemin que nous avons suivi jusqu'à maintenant. Mais quand nous disons exemple d'erreur, nous mettons en œuvre une notion qui n'est pas forcément tout à fait claire et parfaitement délimitée. Exemple d'erreur, mais qu'est-ce qu'une erreur? Comment concevoir la notion même et dire ce qui est erreur et ce qui ne l'est pas? Quand on dit exemple d'erreur, qu'est-ce que cela va laisser comme tolérable? Qu'est-ce que ça va exclure? Et l'objet de la leçon de ce matin, c'est d'y voir un peu plus clair à ce propos. D'abord, je signale que la notion d'erreur, même, je dirais philosophiquement, est d'un maniement délicat. C'est pas si facile. En fait, il y a comme un mystère de l'erreur. Là, je ne veux pas développer du tout, mais pour beaucoup de théories de la connaissance, on ne comprend pas comment l'erreur peut se produire. Si l'esprit est comme un miroir dans lequel se reflète l'objet. Comment est-ce qu'il y a une erreur qui peut se produire? Si l'esprit construit la connaissance, comme c'est la thèse qui sans doute est dominante dans la philosophie moderne, l'orientation idéaliste, si c'est une construction de l'esprit, mais alors comment y a-t-il erreur? Et comment d'ailleurs l'erreur est-elle aussi corrigible? En fait, c'est pas si facile. Et plus près de nos préoccupations, il me semble utile de bien cerner le rapport entre l'erreur et le mensonge, d'une part, et l'erreur et la faute, au sens moral, d'autre part. Ma thèse, en l'occurrence, c'est qu'il faut distinguer, bien sûr, mais qu'on ne peut pas séparer absolument. Et en particulier, si on s'interroge sur la présence d'erreurs dans l'écriture, parole de Dieu, on ne peut pas séparer totalement. Ce qui semble opposer erreur et mensonge, c'est l'intention de tromper chez celui qui parle. S'il fait erreur, il n'a pas l'intention de tromper, il croit lui-même ce qu'il dit, simplement il se trompe. S'il a l'intention de tromper, s'il dit autre chose que ce qu'il pense, alors il ment. C'est une distinction assez élémentaire, on pourrait certainement raffiner. Il y a d'ailleurs un mémoire de maîtrise qui a été rédigé par Mlle Anne Ruholt sur la question du mensonge à partir d'un écrit de Saint-Augustin sur le sujet. Vous pouvez consulter en bibliothèque si vous voulez. Il y a beaucoup de points de raffinement possibles. Mais en gros, je pense qu'on peut d'abord considérer cette distinction entre erreur et mensonge en parlant de l'intention de tromper comme caractéristique du mensonge. Il y a un élément paradoxal d'ailleurs qui peut se glisser. Il se peut que quelqu'un dise vrai objectivement, émette un énoncé qui ne comporte pas d'erreur, dans l'intention de tromper, en mentant. Si lui-même se trompe, il veut tromper autrui, il dit autrement que ce qu'il pense, mais en fait, c'est juste, c'est ça ce qui est juste. Voyez, vous pouvez avoir un paradoxe de ce genre. Mais, en général, ça ne tombe pas si bien quand quelqu'un a l'intention de tromper. Non, là, il y a l'intention de tromper. Mais quand lui-même est victime d'une erreur, qu'il croit quelque chose qui n'est pas vrai, et que pour tromper autrui, il dit en réalité la vérité, mais en croyant que c'est une erreur, alors, vous voyez, il peut mentir, il y a l'intention de tromper. Bon, je n'entre pas dans beaucoup plus de détails là-dessus, parce que ça, c'est juste pour souligner la complexité des notions. Pour nous introduire à la nécessité d'une gymnastique mentale de l'intelligence à un tel propos. Si on distingue erreur et mensonge par l'intention de tromper, il faut noter, me semble-t-il, deux choses qui ont une incidence pour la doctrine que nous sommes en train d'examiner. D'abord, la frontière n'est pas toujours tellement nette et claire entre l'erreur que l'on profère sans du tout vouloir tromper autrui, mais parce qu'on se trompe soi-même, et l'erreur que l'on commet en voulant tromper autrui. Souvent, il y a des situations à la limite, entre deux, on ne sait pas très bien, on force un peu la note, on lui dit quelque chose de juste, mais c'est juste un tout petit peu modifié, parce qu'on a le souhait d'induire un comportement. Donc, en fait, cette distinction erreur-mensonge n'est pas très facile à appliquer dans le concret des relations humaines avec médiation de parole. Et puis, oui, monsieur.
Est-ce que différencier donc l'erreur et le mensonge par rapport à l'inhérent de la parole, est-ce que n'intervient pas par rapport à nous, par rapport à ce qui lui et ce qui vit, celui qui vit, pardon, n'intervient pas la notion de responsabilité, c'est-à-dire que quand on aborde la parole de Dieu, on a une certaine responsabilité d'abord de la comprendre et puis d'essayer de la transmettre. Est-ce que la notion de responsabilité par rapport à soi-même ne permet pas, n'est pas un élément qui permet de se repérer un peu?
Alors je crois qu'elle est très importante, mais qu'elle a davantage rapport à l'interprétation, c'est-à-dire en fait la réception de la parole biblique dont nous devons parler cet après-midi. Donc il faut, je pense, mettre l'accent sur cette responsabilité. Bon, certains éléments que je vais présenter aussi ce matin ont un rapport, c'est-à-dire que on ne peut pas attribuer l'inhérence à autre chose qu'au sens que l'auteur a voulu communiquer. Alors si on comprend mal, évidemment, c'est pas ça. Oui. Mais je me demandais si vous alliez déboucher sur le point que je veux mettre en relief à propos de la distinction entre erreur et mensonge. Le premier point que j'ai suggéré, c'est que dans la pratique, il y a beaucoup de zones intermédiaires, limites, où on distingue peut-être assez mal. Mais surtout, maintenant, deuxième point, si Dieu est l'auteur qui parle par l'Écriture, s'il n'y a pas seulement l'auteur humain, Dieu qui sait tout et qui ne peut mentir, Dieu qui sait tout et qui ne peut mentir, alors il semble difficile de ne pas attribuer la qualité de mensonge à toute erreur qui serait incorporé au texte de l'Écriture. Nous pouvons distinguer entre erreur et mensonge par l'intention de tromper à cause de la finitude humaine et de la faillibilité humaine. Quelqu'un peut se tromper et donc, sans intention de tromper, il peut dire quelque chose de faux à son voisin. Il n'y a pas de mensonge à ce moment-là. Mais s'il sait très bien ce qu'il en est et qu'il dit quelque chose de faux, alors sont trompés. Or, Dieu sait très bien. Si on prend la notion que la Bible est parole de Dieu, ce que l'Écriture dit, Dieu le dit, ça c'est une formule qui a été développée, étudiée remarquablement, c'est un des textes fondamentaux par Warfield, le théologien du début du siècle, qui a beaucoup fait pour la doctrine de l'Écriture. Il a montré comment, dans plusieurs passages du Nouveau Testament, c'est vraiment équivalent. L'Écriture dit ou Dieu dit. Alors, si c'est Dieu qui parle, dans ce sens aussi précis, je vois difficilement comment préserver de manière vraiment concrète la distinction entre erreur et mensonge. Alors, on peut toujours dire, oui, mais c'est un détail. Est-ce que Dieu peut mentir sur un détail? Vous voyez? C'est là le problème. Nous rapprochons de ce qui, à mes yeux, est l'enjeu ultime. Et ça, il faudra y revenir plutôt vers la fin de notre séminaire, de notre travail ensemble. Ceux qui disent « Dieu nous parle par la Bible, mais il y a des erreurs », ne réussissent jamais, pour autant que je puisse voir, à vraiment donner à la formule « Dieu nous parle » la force maximale qui, je crois, est celle de la Bible elle-même. Forcément, ils relâchent le lien. Forcément, ça veut dire ils ont, disons, suscité le discours du prophète, ou le travail du narrateur biblique. Ils s'en servent pour se faire connaître, mais c'est pas vraiment Dieu qui parle. c'est là l'enjeu, à mes yeux, ultime. Mais je me contente de l'annoncer maintenant. Deuxième problème, erreur et faute morale. La tendance de beaucoup d'auteurs, en particulier qui luttent contre l'inhérence, c'est de dire des erreurs n'ont aucune incidence morale. C'est tout à fait innocent de faire des erreurs. Ça appartient à la finitude humaine. Nous ne sommes pas infaillibles, nous nous trompons, nous ne sommes pas coupables pour autant. Donc, il n'y a rien qui porte atteinte à la sainteté de Dieu s'il y a des erreurs dans dans le texte biblique. Voilà, en gros, la ligne que suivent un certain nombre. Bon, Goldinger pourrait être cité parmi ceux-là, mais c'est très, 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 très fréquent. Et je plaide que c'est une séparation qui ne peut pas être maintenue de façon ultime. Que toute erreur, si on est d'une exigence correspondante à la sainteté du Dieu biblique, est entachée de quelques fautes qu'on ne peut pas séparer radicalement. Certes, il y a une distinction commode à faire selon les degrés d'implication de la responsabilité de celui qui parle. Là, c'est pas celui qui reçoit, mais celui qui parle. Mais on ne peut pas séparer absolument. La première chose à dire à ce propos, c'est que erreur et ignorance sont deux catégories qu'il ne faut pas mélanger. Mais je pourrais signaler une phrase où précisément Goldinger les mélange. Il appartient à la finitude humaine d'ignorer certaines choses, et Jésus a participé de cette finitude, il est devenu vraiment homme, et il a dit en tant qu'homme qu'il ignorait certaines choses. Marc 13, 32, le Père seul sait la date de la parousie. Jésus a dit qu'il ne la connaissait pas, donc ignorait certaines choses, mais ignorer certaines choses, ce n'est pas commettre une erreur. Celui qui commet une erreur prétend savoir, il dit comme sachant, alors qu'il ne sait pas. Alors que celui qui ne sait pas dit simplement je ne sais pas. Il ne faut pas mélanger, ce n'est pas un effet de finitude que la défaillance ou l'erreur, c'est une conséquence d'un dérèglement. Supposer l'homme dans l'intégrité de toutes ses facultés, ayant un jugement tout à fait juste dans sa finitude, dans sa bassesse créaturelle, si vous voulez, il ne commettra aucune erreur. Il dira je ne sais pas. Il dira je fais une hypothèse, c'est peut-être ça. Quand on dit c'est peut-être, on ne se trompe pas, même si c'est pas ça, on ne se trompe pas. On fait une hypothèse. Jésus ne s'est pas trompé quand il a fait l'hypothèse que le figuier avait peut-être des figues précoces, parce que ça arrive qu'il y ait des figues précoces, et puis qu'il a été plus près, qu'il a vu qu'il n'en avait pas. Jésus a formé une hypothèse qui restait hypothétique, il n'a pas affirmé ce figuier a des figues. Ça appartient à la finitude humaine. Et il n'y a aucune culpabilité, aucun péché, aucune dimension pécamineuse qui s'y rattache. Mais quand quelqu'un dit « c'est comme ça » et en fait, ce n'est pas ça, il a fait preuve d'imprudence. Il a affirmé au-delà de ce qu'il avait le droit d'affirmer. Donc ce n'est pas purement innocent. Jésus ne l'a jamais fait et je crois qu'il faut bien discerner cela. Descartes expliquait d'ailleurs l'erreur, très intéressant, en disant l'entendement, l'intelligence est limitée, est finie, alors que la volonté est infinie en l'homme. Et c'est ce décalage qui fait que la volonté pousse au-delà des bornes de l'entendement. L'intelligence ne peut pas statuer, ne peut pas conclure, elle n'a pas assez de données, etc. Mais il y a une volonté, on veut pouvoir affirmer. Donc la volonté dépasse ces bornes. C'est comme ça qu'il explique l'erreur. Oui, monsieur Henri.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'ignorance de l'écriture est quelque part de la part des chrétiens.
Oui, alors, maintenant, ça, vous me faites en fait faire le pas suivant. Non seulement, donc l'ignorance de la finitude humaine est clairement distinguée de l'erreur, mais même certaines ignorances sont coupables lorsqu'elles sont le fruit de négligence, lorsqu'il aurait fallu que l'homme consacrât des forces, du temps à étudier, par exemple, la parole que Dieu lui a adressée. Donc, l'ignorance peut être liée elle-même à des facteurs qui sont moralement répréhensibles. Je parle de négligence, mais il y en a beaucoup d'autres. Toutes les passions obscurcissent l'usage de l'entendement. C'est aussi, même dans l'histoire des sciences, hein, on voit ça très très bien, l'ambition personnelle, la vanité d'un physicien, d'un mathématicien, qui font qu'il passe à côté de la découverte, qu'il se trompe. Le fait de se tromper est pris lui-même dans un entrelac de démarches, d'influences, qui ne sont pas séparables radicalement de l'intervention de la faute et du péché. On peut aussi d'ailleurs prendre cette question sous un autre angle en disant: quelle est la vocation, quel est le commandement que le Seigneur adresse? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Aimer Dieu de toute sa pensée, cela veut dire le réel qui est formé par la parole de Dieu d'une façon qui glorifie Dieu comme il mérite de l'être. Tout le travail scientifique lui-même est une glorification de Dieu. C'est penser les pensées de Dieu après lui, ces pensées qui ont organisé le monde. Je suppose que vous avez aussi vu cela avec Mademoiselle Jäger, ce qui était là la semaine dernière. Il y a une glorification de Dieu dans le travail de connaissance de l'être humain, parce que c'est la parole de Dieu qui forme le monde, qui lui donne sa structure, qui le fait tenir ensemble, comme dit le premier chapitre aux Colossiens, que retrouve et redit comme une confession l'homme dans son discours scientifique, l'homme, la femme. Hein. Donc, il y a dans l'énoncé juste des choses qui sont, y compris dans les sciences dures, mais dans tout le domaine de l'expérience humaine, une glorification de Dieu. Et celui qui se trompe ne glorifie pas Dieu comme il doit être glorifié. Il y a une entorse là. C'est pourquoi j'estime qu'on ne peut pas séparer absolument l'erreur et la faute. Bien sûr, il y a une distinction pratique qu'on peut observer, mais au bout du compte, si on veut être radical, on ne peut pas. Or, lorsque l'on traite d'une question comme celle de l'inhérence biblique, il faut être radical. Il s'agit de savoir si un texte qui est la Sainte Écriture, les Saintes Lettres, qui est la parole du Dieu Saint, peut ou non inclure un élément qui serait entaché de faute. Vous voyez comment la notion d'erreur mérite d'être étudiée. Alors, ce préambule, cette première partie très analytique faite, j'en arrive maintenant aux décisions qui sont les miennes, que je vous propose. Je ne pense pas que je m'écarte de beaucoup, en tout cas de l'axe médian de la théologie évangélique. Je pense que je suis assez représentatif. Mais il y a des points limites, je les mentionne dans le schéma, le canevas même de la leçon d'aujourd'hui, en dernière section, et les théologiens évangéliques, peut-être même entre professeurs de la faculté, ne placent pas exactement la limite au même point. Il y a une marge de variation possible. Mais je vous présente ce qui est ma conclusion à ce jour. Ce qui ne compte pas comme erreur, comme l'erreur qui est exclue, donc ce qui peut très bien se trouver dans la Bible inhérente, à mon avis, et de l'avis de la très grande majorité des théologiens évangéliques, c'est d'abord ce qui n'appartient pas à l'ouvrage de l'auteur. C'est l'auteur inspiré par Dieu qui a été protégé de l'erreur. Alors bien sûr, les copistes, je l'ai déjà dit, ne sont pas couverts. Des fautes de copistes, fautes de traducteurs, il me semble que ça va de soi. Mais encore, bien des gens achoppent là-dessus. Donc, je le précise, une erreur qui n'est pas de l'auteur, évidemment, n'est pas en cause. Quand je dis que l'Écriture est exempte d'erreur. Et bien sûr, cela je l'ai frôlé il y a quelques instants, si le lecteur se trompe quant au sens du texte biblique, le sens que l'auteur se figure, qui n'est pas celui de l'auteur, le sens qu'il a imaginé, lui, il peut très bien comprendre une erreur. Ce n'est pas le sens de l'auteur, il n'est pas couvert. C'est pas parce qu'un lecteur très sincèrement croit que c'est dans la Bible que c'est réellement le sens de la Bible et que c'est sans erreur. Non, bien sûr. Là, si ce n'est pas le sens de l'auteur, si c'est le sens d'un lecteur par méprise, alors, bien sûr, ce n'est pas couvert par le privilège d'inhérence. Cela joue en particulier, voilà, vous allez voir que ça commence à mordre. Hein. Lorsqu'il y a un langage qui est figuré dans l'écriture, mais qui n'est pas compris comme figuré par le lecteur. Alors, l'interprétation qui est trop littérale, par méprise de ce lecteur, elle n'est bien sûr pas couverte par la question de l'inhérence. Je prends un exemple immédiat, mais on y reviendra peut-être plus tard, je ne sais pas. Genèse 1. Les jours de Genèse 1. Je crois avoir démontré dans mon livre que l'intention de l'auteur n'est pas de nous donner une chronologie de l'œuvre de la création. Alors, pour moi, il n'y a aucun problème si le soleil apparaît le quatrième jour. Après que la végétation même ait commencé sur la terre. Mais ceux qui, à tort, à mon avis, lisent littéralement, alors là, ils ont un problème. Ou bien ils doivent prétendre, il n'y a pas d'erreur, en réalité, le soleil était caché, etc. Ou bien, ils se trouvent devant la difficulté d'avoir une erreur. Certains diront, mais oui, mais ça appartient au domaine scientifique, ce n'est pas biblique, ce n'est pas le message de la Bible. Vous voyez, là, où ce principe commence à jouer.
Monsieur,
oui.
Certaines gens croient que quelqu'un que Dieu appelle au ministère n'a pas besoin de prêcher dans un séminaire ou dans une faculté comme... celle-ci pour étudier la parole de Dieu. Alors, est-ce que, sans avoir reçu une formation, est-ce que ce quelqu'un-là peut interpréter avec facilité la parole de Dieu?
Moi, je pense que c'est possible. Je crois qu'il est très utile de faire des études, mais qu'il y a des exemples de gens qui n'en avaient pas fait et que le Seigneur a utilisé et qui ont été très sages, et sur des questions comme celles que je viens d'aborder. Il n'est pas du tout nécessaire, indispensable d'avoir fait de l'hébreu et d'avoir cultivé le texte en hébreu pour comprendre cela, et même pour que l'idée en vienne. Je crois qu'il y a des hommes peu cultivés, mais très sages, dont Dieu se servit. Bon, je ne dis pas sur ce chapitre premier de la Genèse, je ne sais pas du tout son opinion, mais il y a eu un prédicateur qui était très influent aux États-Unis, Tozer. Je crois que c'est Andrew Tozer, lié à la CMA, l'Alliance chrétienne et missionnaire, qui n'avait pas fait d'études du tout, mais un homme qui a été en bénédiction. Donc c'est possible. Je crois que la manière normale dont Dieu forme ses serviteurs, c'est par des études, mais il ne faut pas croire que ce soit absolument indispensable pour voir un point comme celui que je viens de dire. Des gens sans instruction peuvent très bien percevoir un langage figuré. Oui, monsieur Harvey.
Votre remarque vient à l'appui de ce que vous avez dit tout à l'heure, la relation entre faute morale et même spirituelle et erreur.
Oui, je crois, tout à fait. Trouvé chez des critiques de l'inhérence. Deuxième sorte de phénomène que moi je n'appellerais pas erreur. Bien sûr, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'erreur si l'auteur ne propose pas comme vrai ce qu'il a écrit. S'il fait des citations, par exemple, il cite le diable, mais pas seulement le diable, bien sûr. Ce qui est vrai, c'est que le diable a dit ça, ou est-elle, mais ce n'est pas ce que le diable a dit, forcément, vous voyez. l'auteur ne propose pas comme vrai ce qu'il cite, quand dans le contexte, en tout cas, il apparaît qu'il n'endosse pas lui-même. Quand c'est le diable, c'est assez simple. C'est une distinction classique entre l'authenticité historique et l'authenticité normative du texte. Là, c'est peut-être maintenu comme vrai historiquement que le diable a dit ça, mais le contenu, bien sûr, n'est pas couvert. Je signale tout de suite, je reviendrai, qu'il y a des cas limites. Il y a toute une théorie des citations implicites. On fait parfois des citations sans indiquer clairement que c'est une citation, mais les gens qui sont alentour, qui reçoivent la parole ou l'épître, le savent, donc ils comprennent tout de suite. Et nous qui arrivons 2000 ans après, c'est vrai, la question peut se poser. On a parlé hier du texte en Corinthiens 14, que les femmes se taisent dans l'assemblée. Il y a tout un groupe d'exégètes aujourd'hui qui croit que Paul cite ses adversaires dans cette parole. Moi, je crois que c'est une facilité, une entourloupette. Hein. C'est des gens très sérieux qui croient que c'est une citation. Et donc, que Paul ne pense pas du tout ça. Et que c'est une erreur théologique. Voilà comment des gens, des évangéliques, prennent ce passage. Donc, vous voyez, le principe est clair. Si l'auteur fait une citation, ce qui est dans la citation n'est pas forcément inhérent. Mais dans l'application, ce n'est pas toujours évident. Il y a aussi le problème des opinions privées de l'auteur. L'opinion privée de l'auteur, elle n'est pas, elle, inhérente. Les auteurs demeurent des auteurs humains avec leurs idées. Ils sont capables de se tromper. Et on voit bien que Pierre à Antioche a été capable de se tromper, puis il a été repris par Paul. Ce n'était pas son enseignement d'apôtre, mais dans ses opinions, il s'est trompé sur la manière dont il devait se conduire avec les frères issus du paganisme à Antioche. Donc, les opinions privées des hommes qui ont écrit la Bible ne sont pas, elles, infaillibles, sans erreur. Mais il arrive qu'on puisse les deviner quand quelqu'un s'exprime. Même ce qu'il ne dit pas, parfois, transparaît, se laisse très aisément percevoir entre les lignes. Alors, exemple, je donne un exemple. En psaume 121, de jour le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Dans le psaume, dans son contexte, on peut très bien prendre ça comme une façon poétique de dire « aucun mal ne t'arrivera d'aucune sorte ». On n'a pas le droit d'imputer au psaume comme tel un sens qui aille bien au-delà. Mais on peut imaginer, on n'a pas la preuve non plus, mais on peut imaginer que l'auteur du psaume, lui, avait l'idée d'influences maléfiques que le soleil ou la lune, rendant lunatique, pouvait... Oui, c'est imaginable, envisageable. Il y a des exégètes qui ont suggéré cela. Alors, les opinions privées des auteurs, même si on peut les subodorer quand on lit le texte, ne sont pas couverts par un privilège de l'inspiration, car c'est en tant que porte-parole sous l'influence de l'esprit, quand ils parlent au nom de Dieu, qu'ils sont libres de toute erreur, mais pas autrement.
Alors, à propos des citations et des opinions privées, quand quelqu'un est introduit en même citation, comment est-ce qu'on peut savoir si la personne exprime son... Est-ce que, par exemple, la prière de dédicace du temple de Salomon exprime ce que croit Salomon, Salomon dit que bon, est-ce que les discours de Job, c'est Job dit de bon, etc. Est-ce que quand les apôtres, on a le discours des apôtres dans les actes, il peut y avoir des erreurs parce que les apôtres ne sont inhérents que quand ils écrivent leurs épîtres, mais qu'ils pourraient se tromper quand ils parlent, comme Pierre a pu se tromper dans son comportement. Là, quel est le principe qui doit être étudié?
Le principe, c'est une étude au cas par cas. Il n'y a pas de recette. Il s'agit de voir, d'après le texte, ce qui est plausible. Est-ce que le texte nous propose, c'est-à-dire l'auteur qui apporte son texte, nous propose cela comme ce que ambassadeur de Dieu il nous propose à croire ou pas. Alors, pour les apôtres, moi, pour moi, il n'y a pas d'hésitation pour les discours apostoliques, car en fait, je pense que l'inspiration d'auteur biblique suit l'office apostolique. Donc, lorsque les apôtres sont présentés dans l'exercice de leur apostolat, ils sont porte-parole de Dieu, Dieu parle par eux, Christ parle par moi, dit Paul, qu'on reconnaisse ce que j'écris, le commandement du Seigneur. Donc, pour les apôtres, pas de problème. Mais il y a un problème pour Étienne. En acte 7, lui n'est pas un apôtre. Alors, est-ce que le discours d'Étienne en acte 7, qui contient justement plusieurs difficultés très sérieuses du point de vue de l'histoire, est-ce qu'il est couvert par l'inhérence ou pas? Moi, je préfère répondre oui. Il me semble que Luc, qui lui est plénièrement inspiré, veut nous présenter Étienne comme un modèle et présenter son discours comme vraiment un enseignement à recevoir en pleine autorité. Mais c'est une question limite. Il y a certains évangéliques qui ont pu dire ce que dit Étienne, Étienne n'étant pas un apôtre, pourrait comprendre des erreurs. Et oui, vous avez des cas limites. C'est pas tout facile. Il faut aussi dire que lorsqu'on a quelqu'un qui parle, il faut prendre tout son discours pour avoir le sens des paroles. Et qu'il ne faut pas achoper à la difficulté d'un Corinthiens 1, verset 14 et suivant. Paul dit, je n'ai baptisé personne. Si, j'ai baptisé le maison de Stéphanas. Hein? On ne peut pas dire qu'il fasse une erreur. Ce serait contraire au voie de la communication humaine où il faut prendre au moins tout le paragraphe pour avoir ce que dit la personne. Il ne s'est pas trompé en disant je n'ai baptisé personne. Il a fait une déclaration générale qui a sa validité générale. Il la précise et corrige à l'égard d'un malentendu possible en donnant la maison qu'il a spécialement baptisée. Il faut prendre le morceau. Parler d'erreur à ce propos ne me semblerait pas conforme aux lois de la communication humaine. On ne peut pas isoler. Voilà donc. Deuxième série de choses que je n'appelle pas erreurs, qui peuvent se trouver dans la Bible.
Concernant l'apôtre Paul, lorsqu'il parle de sa propre situation, en fait, lorsqu'il parle du mariage, il présente ça comme un conseil de sa part, un conseil éclairé, alors on pourrait dire que quelque part, même si le conseil est bon et qu'il est inspiré, c'est le conseil de Paul, et donc il y a une part, il peut avoir une part d'interprétation personnelle malgré sa qualité d'apôtre.
Ah oui, alors, cette question d'un Corinthiens 7, il faudra peut-être y revenir plus tard, parce que là je crois que je n'ai pas le temps, mais en gros, il y a deux explications possibles qui sont toutes les deux conformes à la doctrine orthodoxe, soit penser que Paul, exceptionnellement, met un morceau qui n'est pas couvert par l'inspiration plénière, qui est juste un avis humain, même s'il est respectable comme tel, ou l'autre interprétation qui est de loi majoritaire, comme quoi Paul veut simplement distinguer ce qu'il dit là, comme apôtre, pleinement inspiré, inhérent, de ce que Jésus a dit au cours de son ministère terrestre. C'est ce que j'adopte comme interprétation, mais l'autre est conforme à la doctrine aussi. Puis troisième catégorie de phénomène que je n'appellerai pas erreur, ce qui contrevient à des règles de pure convention humaine. Bien sûr, dans la mesure où la communication du sens n'en est pas déviée du point de vue de la vérité. Les fautes de grammaire, si vous voulez. Solécisme et barbarisme. Là, il a appartenu à la condescendance de Dieu, qui balbutie avec nous, comme une nourrice avec un bébé, d'accepter jusqu'à des fautes de grammaire, du moment que le sens est préservé. Dieu ne peut pas mentir, mais Dieu peut s'humilier jusqu'à un tel balbutiement en utilisant comme ses porte-parole des hommes faibles et infirmes. Donc, ces fautes-là ne sont pas des fautes qui seraient exclues, fautes pas morales. Hein. De toute façon, la grammaire, c'est une affaire de convention. Alors, c'est important. Hein. Moi, je lutte pour que l'on respecte les règles du français, je lutte contre la corruption de la langue française en notre temps, une rubrique même qui vient de temps en temps dans Fac Réflexion, que j'écris à ce propos, mais en même temps, ça n'a pas du tout le même statut que l'exigence de vérité. Et c'est très lié à la constitution de nations unifiées, avec une uniformisation scolaire toute récente dans notre pays, au XVIIe siècle même, et pourtant la France a été pionnière dans cette unification. Il y avait encore des parlers beaucoup plus divers, et au temps de l'Ancien Testament, pour l'hébreu, en fait, ce qui était une faute pour Jérusalem n'était pas une faute en Galilée. D'ailleurs, même entre Suisses, Suisses et Français, en Suisse, on dit encore « lui aider » alors qu'on ne le dit plus en France. « Lui aider » au lieu de « l'aider », par exemple. Oui. Il n'y a aucune raison de penser que Dieu ne devait se ranger à l'une des règles et pas à l'autre.
Notre binaire, Baudouin, allait trop loin quand il disait, d'après vous, hein, oui. semble aller trop loin, quand lui semble établir une relation entre la forme et l'erreur. Pour lui, si mes souvenirs sont exacts, puisqu'il l'a bien lu,
oui, moi je me rappelle pas.
Il semble dire que quelqu'un qui est négligent dans la forme peut être soupçonné, pourrait être soupçonné d'avoir l'intention d'induire en erreur.
Oui, bon, je crois qu'il a raison en général. Mais là, j'essaye de développer en doctrine ce qu'exige l'affirmation de l'inhérence. Et je dis que nous n'avons pas à exclure. Dieu, dans sa condescendance, a pu l'admettre. En fait, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dans l'Écriture, surtout si on tient compte des diversités de dialectes, des variantes locales. L'endroit où il y en a le plus, c'est l'Apocalypse, où il y a très bizarrement des fautes de déclinaison grecque massives, par moments, pas à d'autres. Moi, j'ai une interprétation tout à fait personnelle à ce propos. Je crois que c'est intentionnel. Je crois que c'est un procédé de l'auteur pour donner le climat apocalyptique, pour donner le sens de ces visions stupéfiantes, un sentiment plus exotique. Je crois que c'est ça, mais c'est mon idée personnelle. Ce n'est pas défendu par un véritable expert en la matière. Bon, mais aussi les règles de composition et de documentation d'un genre. Alors là, de nouveau, on atteint quelque chose de beaucoup plus sensible. Pour faire un bon travail d'histoire aujourd'hui, on dira, il faut donner une importance égale à tous les événements de même type, il faut bien marquer les séries causales, il faut bien citer ses sources, il faut aller dans l'ordre chronologique, etc. Mais ça, c'est pas forcément valable pour l'auteur biblique, même s'il fait un récit qui est foncièrement historique. Nous ne pouvons pas appliquer nos règles à ce propos. Et nous n'avons pas donc le droit de dire « c'est une erreur ». S'il a changé l'ordre de deux événements alors que ça correspondait au procédé littéraire qu'il mettait en œuvre. Si entre Matthieu et Luc les trois tentations de Jésus ne sont pas dans le même ordre, pas du tout à dire il y a un qui fait une erreur. Vous voyez de nouveau comment s'applique cela. Donc ces choses ne me semblent pas des erreurs. J'estime que c'est une accusation calomnieuse de dire qu'en fait, alors, je vide de sa signification l'affirmation de l'inhérence. Je crois que dans tous les cas que je vous montre, c'est du bon sens de dire, mais bien sûr, c'est pas le sens de l'auteur, c'est pas ce qu'il a voulu dire, donc c'est pas couvert par l'inhérence. Hein. Voilà comment donc je réponds. Mais qu'est-ce qui compte comme erreur, alors? Alors, c'est ce qui est proposé comme vrai, à croire ou à penser par l'auteur, selon les codes de la communication qu'il met en œuvre, sur des réalités passées, présentes ou futures, parce qu'il peut y avoir une erreur par rapport à l'avenir quand elle est prédite, une promesse quand elle n'est pas tenue, quand il n'y a pas conformité à ces réalités. Ce qui correspond à la notion dite réaliste de la vérité. Alors, par exemple, je donne des exemples. Ce serait une erreur s'il était établi, comme beaucoup le disent, que le recensement menée par Quirinius, ou alors le recensement qui a eu lieu alors que Quirinius était gouverneur de Syrie, n'a pas eu lieu avant la mort d'Hérode, comme Luc semble le dire, mais seulement en 6 après Jésus-Christ, comme les historiens le montrent, comme les documents historiques et les historiens de la période l'établissent. Si Luc a transporté 12 ans plus tôt le recensement que Quirinius a effectué en 6 après Jésus-Christ, alors qu'il aurait dû, alors qu'il parle d'une période qui est de 6 avant, ah, il s'est trompé, c'est une erreur. Une erreur du genre qui me paraît exclue par l'affirmation de l'inhérence. Autre exemple, que le livre de Daniel enseignerait la succession d'un empire mède puis d'un empire perse, représenté par la poitrine puis par le bassin de la statue du chapitre 2 ou par les animaux 2 et 3 dans la vision du chapitre 7, alors qu'en réalité dans l'histoire il n'y a eu qu'un seul empire médo-perse. L'opinion largement majoritaire des critiques, des jettes critiques sur Daniel, c'est que effectivement le livre de Daniel se trompe. Il nous présente 4 empires là où il y en aurait réellement eu 3, qui séparent un empire mède dont Darius était le chef et un empire perse où Cyrus était l'empereur, alors qu'en réalité il n'y en a eu qu'un seul avec Cyrus qui était médo-perse. Là c'est une erreur. Et à mon avis c'est exclu par l'affirmation de l'inhérence. Si l'accusation est vraie, l'inhérence est fausse. Troisième exemple, que l'auteur de 2 Rois 17-25 consentirait à refléter une image de Dieu que nous devrions condamner. Dans 2 Rois 17-25, il est dit que les colons qui s'étaient établis dans le territoire des 10 tribus qui avaient été abandonnées adoraient leurs idoles et que le Seigneur, l'Éternel, a fait sortir de leur repère des lions qui les ont fait mourir, de telle sorte que le roi d'Assyrie a décidé que ces colons devraient apprendre aussi la loi de l'Éternel. On parla au roi d'Assyrie disant, les nations que tu as transportées et que tu as fait habiter dans les villes de Samarie ne connaissent pas la coutume du Dieu du pays. Il a envoyé contre elles des lions, et voici, ces lions les font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la coutume du Dieu du pays. Apparemment, l'auteur du récit reprend cette opinion à son compte. Certains disent, c'est sa pensée théologique, c'est son enseignement théologique, mais c'est quelque chose d'inadmissible pour nous. Ce serait une erreur. Que la Genèse, autre exemple, présenterait dans des doublets plusieurs versions divergentes d'un même événement, comme s'il s'était agi de plusieurs, mais en réalité, il n'avait qu'un seul. Il dit de Sarah, c'est ma sœur, c'est ma femme, ça se répète, mais en fait, ça ne s'est pas répété, c'est arrivé une seule fois, c'est arrivé une seule fois, et nous avons des doublets, nous dit-on. Des récits un peu différents, on ne peut pas les faire coïncider exactement, qui étaient venus par diverses traditions à l'auteur, alors il les a placés à divers endroits de son livre, mais nous savons qu'en fait, ce sont des doublets, qu'en réalité, ce qui semble être deux événements n'a été qu'un. Alors, je dis, ça, c'est quelque chose d'incompatible avec l'inhérence. Autre exemple, les évangiles attribués à des démons. Je prends juste 5 minutes, on me l'a demandé avant que je commence pour correspondre à leur écart, en gros. Mais je ne prendrai pas plus de 5-6 minutes. Que les évangiles attribuent à des démons, présentés comme des agents de type personnel, des êtres réels, spirituels, ce qui devrait être diagnostiqué comme simple maladie psychique ou mentale. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, voilà, la Bible adopte les vues superstitieuses de son temps et croit qu'il y a des démons. Mais en fait, nous savons que c'est simplement d'épilepsie, c'est simplement de la schizophrénie, ou que voulez-vous. Moi, j'appelle ça une erreur imputée au texte. Et cela me paraît donc exclu par l'inhérence. Et j'estime que ce n'est pas possible d'admettre de telles erreurs au nom de l'accommodation condescendante de Dieu, ou en supposant qu'il s'agit de citations implicites, qu'on pour deux rois 17-25, on pourrait à la rigueur dire c'est l'opinion de ceux qui parlent au roi d'Assyrie. Mais enfin, ça me paraîtrait quand même un peu une fuite. Ou en disant l'inhérence, c'est seulement la foi et les mœurs. Donc ce qui est de l'histoire, ça ne m'est pas touché. C'est une restriction dont je ne perçois pas de justification, si c'est Dieu qui parle. Quoi qu'ils disent, même s'ils parlent très peu de questions scientifiques par exemple, si c'est Dieu qui parle, je n'ai pas le droit de dire à l'avance, ce n'est que pour la foi et les mœurs que je vais recevoir entièrement l'autorité. Il y a la difficulté si on dit la foi et les mœurs, et ça, Gloniguer l'a reconnu, que la foi est intimement liée à l'histoire dans la Bible. C'est justement le propre de la foi biblique, d'être intriqué avec les événements historiques. Et je signale encore que, d'après des auteurs catholiques, d'après Courtade dans le grand article, c'est justement un point qui distingue la vérité biblique, l'inspiration biblique, de l'infaillibilité pontificale. Le pape, lui, quand il met en jeu son infaillibilité, définie par le Concile Vatican I, c'est seulement sur la foi et les mœurs. Le champ est restreint. Non seulement il doit parler ex cathedra comme docteur universel des chrétiens, etc., mais ça ne joue que sur la foi et les mœurs. Et Courtade note très justement qu'on ne peut pas, pour la parole de Dieu, faire une telle instruction. C'est reconnu par un théologien catholique. Ce qui est exclu aussi, étant donné la notion biblique de vérité, c'est la contradiction réelle entre deux propositions. Par exemple, entre Paul et Jacques sur la justification, entre les deux récits de la fin de Judas, il s'est pendu, il est tombé la tête la première. Là, s'il y a vraiment contradiction, c'est incompatible avec l'inhérence. Et puis finalement, alors, j'ai une section sur les cas limites. Je sélectionne celles qui peuvent être les plus importantes, les plus intéressantes. J'ai déjà parlé de l'usage de la Septante, de la version courante en grec. Et j'ai signalé que Calvin admet que l'auteur néo-testamentaire puisse citer la version courante, même si elle ne reflète pas exactement l'hébreu. Simplement, c'est la version courante. Et j'ai considéré que c'était en effet tout à fait légitime. Mais c'est quand même une situation limite. Certains sont gênés par cela. Voilà. Alors je signale. Je signale que c'est à la limite et que moi, je me positionne comme Calvin l'a fait lui-même, à cet endroit. Un autre exemple où là, je me positionne du côté le plus prudent, par rapport au déplacement des événements dans le récit, qui est compatible avec les modes de composition des récits bibliques, parfois au moins. Est-ce qu'il y a eu deux purifications du temple ou une seule? D'après les synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, c'est dans la dernière semaine, avant la croix, que Jésus a renversé les tables des changeurs, a nettoyé le temple, et tout ce trafic qui s'y faisait. Mais vous trouvez ça en tête du récit de l'évangile de Jean. Dès Jean, chapitre 2. Alors, est-ce que c'est Jean qui a déplacé, selon la liberté de composition? C'est ce que croit Richard Franz, par exemple, que je crois M. Buchholz a dû vous citer comme un auteur. Moi, je préfère quand même, avec d'autres interprètes, penser qu'il y a eu deux purifications. Mais j'hésite vraiment. C'est une situation limite. Hein, je reconnais que c'est à la limite. Les psaumes qui sont dits le David, traduit le de David dans la plupart de nos versions. On appelle ça le lamed, le d'auteur. Est-ce que nous devons croire que c'est une information historique inhérente et donc que tous ces psaumes sont de David? Certains évangéliques le croient. Moi j'ai tendance, avec d'autres évangéliques, à penser que ce n'est pas obligatoire. que ce sont des notices qui ont été rajoutées plus tard au psaume, qui n'appartiennent pas au texte même du psaume. La raison principale étant que justement dans la Septante, on ne retrouve pas exactement les mêmes, donc ça suggère que ça a été rajouté plus tard. Mais c'est à la limite. Je crois que M. Émile Nicole est plus prudent, conservateur que moi sur ce point précis. En revanche, quand le Nouveau Testament souligne que c'est David, alors là, je pense que ça, il faut le maintenir, que c'est David. Comme en acte 2 ou en Matthieu 22. Vous voyez la situation limite qui exerce notre discernement. Alors, il y aura encore quelques autres cas, nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir dans les séances qui viennent, mais je crois que vous avez bien saisi ce que je voulais dire. Donc, 10 minutes avant le repas.